Mercredi 23 février 2022, vous êtes en compagnie de Rukaita Abdraman pour le journal de 17h que vous suivez en direct sur les ondes des 52 radios partenaires du studio Kalangou. Les titres. L'enseignement du programme franco-arabe au Niger connaît une évolution dans les matières scientifiques à suivre les explications du directeur du centre Amil Sourtan de Niamey. Les travaux de la route transsaharienne Algérie-Arlit-Nigeria sont presque à terme, le directeur départemental de l'équipement d'Arlit dans ce journal. Dans la partie magazine de cette édition, il sera question du bilan des accidents de la route enregistrés en 2021 dans le département de Kanké, région de Zender. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Au Niger, l'enseignement franco-arabe est une option pour les élèves et étudiants. Nombreux sont ceux qui sont dans ce système d'enseignement. Celui-ci connaît une évolution dans l'élaboration des matières scientifiques. Pour Salam Mohamed Sali, le directeur du centre Amir Sultan de Niamey, il y a beaucoup de progrès dans ce sens. Il est interrogé par Ali Tajissir.
L'enseignement franco-arabe au Niger connaît chaque jour une évolution en termes d'organisation, d'élaboration et de traduction. Beaucoup de matières qui étaient autrefois enseignées uniquement en français sont aussi enseignées en arabe. Il y a également une orientation vers l'enseignement des matières scientifiques en arabe et dans ce sens, il y a eu des centres de formation et des écoles qui ont été mises en place pour cela. Il y avait des matières qui étaient uniquement en français, comme la pédagogie, la sociologie et la psychologie, qui sont aujourd'hui enseignées en arabe. Donc, sans nul doute, les étapes pour élaborer toutes ces matières en arabe et en cours, surtout pour les matières scientifiques. Au niveau de nos gouvernants, il y a des programmes qui vont dans le sens d'intégrer les matières scientifiques au niveau des écoles.
À Gaya, les écoles primaires et secondaires font face à un manque criard en personnel enseignant et en matériel didactique. Une situation qui affecte la qualité de l'apprentissage, a indiqué le directeur départemental de l'éducation, Mahamane Fari Adam, au micro de Fadel Alou.
Au niveau du primaire, il nous manque en ce moment près de 200 enseignants. Ça veut dire qu'il y a un souci qui est à ce niveau-là. En revanche, au niveau du secondaire, cette année, il y a un net mieux. Récemment, nous avons reçu une dizaine d'enseignants sortis après les stages de la section spéciale que nous venons d'affecter au niveau des différentes inspections. Donc nous espérons que la situation va évoluer positivement. En ce qui concerne l'établissement, là aussi la situation est quand même assez difficile. C'est un effectif global de 53 193 élèves, tous niveaux confondus. Nous avons un disponible en table banc de 11 015 tables. Donc si nous considérons qu'une table banc doit porter donc deux élèves, vous pouvez imaginer aisément donc le gap qui reste à prévoir. C'est des difficultés donc que nous traînons de longue date. C'est une problématique qui est de taille. Donc tout le monde doit s'y mettre lorsqu'on sait surtout qu'un enfant au sol, surtout quand il est du CUCP, je crois qu'il ne va pas apprendre grand-chose.
La route transsaharienne qui doit relier l'Algérie au Nigeria en passant par Arlit est pratiquement dans sa phase terminale. Les travaux de voirie dans le cadre de la bretelle de cette route de 6 km de goudron dans la ville d'Arlit ont démarré, selon Mohamed Ali, directeur départemental de l'équipement au micro de Ousmane Oumarou.
Nous sommes en train de faire les travaux de voirie, des bretelles sur la route transsaharienne. Nous avons commencé à partir du rond-point Justice en passant par Carré Réseau et nous nous sommes rabattus sur le goudron de la RTS 25. Maintenant, nous avons pris un nouveau tronçon qui quitte le Carré Réseau et qui va vers le nouveau cimetière. Nous sommes en stade de décapage. Nous demandons la compréhension de la population. Le temps presse et le projet va s'arrêter puisqu'il nous a été demandé de faire vite pour terminer les travaux avant la fin de ce mois de février. C'est pourquoi nous avons diversifié les activités par-ci, par-là pour arriver à faire le maximum de travail. Notre objectif, c'est de construire 6 km dans la ville d'Arlit. Pour le goudron, nous avons déjà réalisé 400 mètres rallongés du rond-point Justice jusqu'à la Sonitra. À cet endroit, le bitumage est totalement terminé.
Pour rendre la ville de Balayara propre et salubre, 150 femmes sont mobilisées par la commune. L'activité a débuté lundi dernier pour une durée de 2 semaines. Ramatou Idé, participante et présidente d'un groupement féminin, explique la démarche au micro de Hassan Moumouni.
C'est la mairie qui nous a mobilisés pour rendre salubre notre commune. Nous atteignons le nombre de 150 femmes réparties dans les quartiers. Partout où il y a un carrefour ou c'est une grande voie, nous la balayons jusqu'au bout. On nous a donné 2 semaines pour faire cette salubrité. Nous le faisons et il n'y aura pas de recul, car c'est pour que notre commune soit propre. Tu vois, la fois passée, lors du festival des Touaregs, les gens avaient redouté leur refus à venir, car Baleara n'était pas salubre. C'est pourquoi nous nous sommes réunis, nous les femmes, car un homme ne peut pas rendre propre une commune. Actuellement, nous sommes 50 femmes à balayer. Nous avons deux présidentes. Ce sont elles qui s'occupent de toutes ces personnes. Et chaque groupe a un superviseur. Du début de la journée, tu balais et tu finis à 13 heures de la journée. Et demain, nous revenons quand on aura rétabli le programme. Et chacun part là où il a été dirigé. Quand nous trouvons de la saleté devant une maison, nous rendons sa propre.
La région de Diffa, depuis 2015, connaît des problèmes de sécurité liés aux attaques des éléments de Boko Haram. La situation est quelque peu moins préoccupante ces derniers temps. Seulement une forme d'insécurité a fait son apparition dans la commune. Il s'agit des vols de nuit malgré l'état d'urgence qui inquiète la population. On les écoute au micro de Guidi Abdraman.
Les vols continuent. La ville est laissée à la merci des voleurs, comme s'il n'y a pas l'autorité. Parce que les forces de l'ordre ne font plus les patrouilles. Ils nous font couler dans les maisons et les voleurs circulent. S'ils sont débordés, nous proposons qu'ils recrutent dans chaque quartier 10 jeunes pour surveiller le quartier.
En réalité, le problème des vols, c'est de notre faute, aussi la faute des autorités. La raison est simple. Quand on a des jeunes en groupe de 4 ou même de 5 qui ne font rien, qui prennent du thé et que l'État ne fait rien pour leur donner du travail, par exemple. Les regrouper dans un endroit pour leur apprendre des activités commerciales. La chose la plus convoitée par les voleurs et facile à disparaître, c'est seulement le portable. S'il y a un voleur de cellulaire, il y aura toujours un acheteur. Donc les autorités doivent surveiller ça.
Toute construction réussie doit être ancrée dans son contexte culturel et prendre en compte les besoins futurs de la famille. Construire aujourd'hui en pensant à demain, les Sahéliens ont les moyens de construire des maisons intelligentes. C'est le message de l'architecte Sanounou Ibrahim du Pyramide, membre de l'Ordre des architectes du Niger. Il est au micro de Talat Abdoubahar.
Au Sahel, ce qui est conseillé de faire, c'est toujours gagner de l'espace en bas. Parce que dans notre culture, on aime cuisiner en bas. De notre culture, on aime rester dans la cour. Donc celui qui a une petite surface, même s'il ne peut pas faire R plus 1 en même temps, qu'il se rassure qu'il a fait des fondations qui peuvent tenir. Quand il aura un peu de moyens, il peut continuer. Si monsieur a véhicule, madame a véhicule, l'enfant grandit, il va avoir véhicule. Il faut avoir un plan qui répond dans le futur. Il faut avoir l'espace parking. Il faut avoir de la verdure, parce que ça permet de faire des appels d'énergie.
Et si on n'a pas d'eau pour arroser, qu'est-ce qu'il faut faire?
Oui, l'eau c'est un problème, certes, mais les zones où les installations de la scie ne sont pas arrivées, maintenant les gens font des puits. Et c'est même économique, pratique, puisque nous pouvons faire des bâtiments intelligents. C'est-à-dire que les bâtiments intelligents c'est quoi? C'est des bâtiments qui ont les capacités de la construction de produire de l'énergie. L'énergie quoi? L'eau et l'électricité.
Bientôt, une statuette à l'effigie d'Umaru Ganda sera soumise au ministère nigérien de la Culture avant d'être érigée à la place des cinéastes à Ouagadougou au Burkina Faso. Dans ce cadre, le directeur général du Centre national de la cinématographie du Niger, CNCN, séjourne au Burkina Faso pour la confection de la statuette. Sani Magoroui est interrogé au téléphone par Adama Dawaki.
Le projet de la statuette à l'effigie d'Umaru Ganda, qui est le premier lauréat du FESPACO. Donc, il est question depuis longtemps de voir comment le Niger va faire ses statuettes au même titre que tous les pays qui ont remporté le talon de Yenega. Et tous les autres ont leur statuette là-bas, à la place des cinéastes, sauf Umaru Ganda. L'absence de cette statuette, c'est vraiment un frein pour le cinéma nigérien de revendiquer, de vouloir quelque chose au niveau du FESPACO. Par exemple, même pour être invité d'honneur du FESPACO, pour cela, il y a un certain nombre de conditions, notamment cette statuette, en tout cas, elle fait partie des choses, pas une exigence, mais chaque fois que nous faisons des rencontres avec les professionnels ou les FESPACO, on nous reproche de ne pas pouvoir faire cette statuette. Donc, l'année passée, au cours du FESPACO, le ministre de la Culture a pris cet engagement auprès des cinéastes de voir comment faire cette statuette d'ici le FESPACO de février 2023.
Un mot de sport dans ce journal, les matchs de la Super League de football se poursuivent sur les différents stades au Niger. Ainsi, à l'issue de la 19e journée, l'AS Nigelec occupe toujours la première place du classement provisoire avec 43 points, suivi de l'AS Douane 36 points et l'USGN qui occupe la troisième place avec 30 points. En bas du tableau, on retrouve le Sahel Sporting Club du Nouveau Marché avec 19 points, le Racing FC de Bukoti avec 18 points et l'Olympique FC de Lakroussou qui ferme la marche avec 17 points. Et puis la partie magazine de cette édition, au cours de l'année 2021, le département de Kanké de la région de Zender a enregistré plusieurs accidents graves de la route. Avec un bilan officiel de 68 morts, de nombreux blessés graves et des dégâts matériels, les autorités coutumières et administratives promettent de sévir. Abou Serki Saleh pour le compte-rendu.
Le département de Kanké dans la région de Zender a répertorié au cours de l'année 2021 beaucoup d'accidents de la route souvent mortels. Selon une source sécuritaire, la commune à elle seule a enregistré 76 accidents faisant 18 morts, 29 blessés graves et des dégâts matériels. Partant de ce constat, le préfet du département, Moussa Dantani, au cours d'une rencontre avec les différentes couches socio-professionnelles, a promis de sévir.
C'est l'excès de vitesse qui cause le plus grand nombre d'accidents et aussi à la non-maîtrise du code de la route. Nous leur avons demandé de s'organiser. Il faut qu'ils soient fichés enregistrés au niveau de leur commune, qu'ils aient leur carte, qu'ils aient leur structure organisée en groupement de conducteurs de moto-taxi et qu'on sache exactement qui sont les membres du groupe. Et à chaque instant, quand on constate qu'un conducteur d'une moto ne dispose pas d'une de ces cartes-là, on devrait fouiller, voir qui il est, d'où il vient.
Quant au chef de canton de Kanké, Abdoulkader Amadou Issaka, il a indiqué qu'il faudra désormais imposer le paiement des dommages aux victimes.
Cet état de fait prend de l'ampleur parce qu'il n'y a pas d'imposition de dommagement. À chaque accident, quand l'affaire arrive devant la justice, on dit c'est pardonné. Et cela se répète encore. Et les gens ne se corrigent pas pour se dire que je dois être en règle, avoir mon permis de conduire, mon assurance. Par contre, si l'on imposait 100 chameaux comme l'islam le recommande, je crois que si l'on se voit confisquer 4 à 5 maisons, on verra une régression de ces accidents.
Pour Lewali Kora, représentant des taximotos, l'excès de vitesse dont ils sont accusés est très souvent provoqué par des courses-poursuites engagées contre eux par des forces de l'ordre.
Tout celui que tu vois en train de fuir, c'est qu'il est pourchassé par la police. Il n'y a rien qui pousse les gens à l'exercice, c'est pas ça. Aujourd'hui, chez toi, tu fais taxi-moto, la police t'arrête et te fait une amende de 24 000 francs CFA, 48 000 francs CFA. Tu n'as pas le choix que de déposer ta moto. Si tu ne fais rien, tu es obligé de voler ou de consommer de la drogue.
C'est tout pour cette édition d'information. Merci pour votre fidélité au programme du studio Kalangou qui vous parvient à travers nos 52 radios partenaires. À 18h15, vous allez suivre le forum du studio Kalangou sur le thème « Quelle contribution de la radio pour la promotion de la paix au Niger ?» La présentation avec Michel Deji. Mais dans un instant, le journal en tamashek avec Ali Tajissir. Merci et bonne suite de réception. Au revoir.
Salut Fanta, une très bonne nouvelle pour toi.
Ouais, raconte, je t'écoute.
Plus de soucis pour écouter les émissions de Studio Kalangou.
Sois clair, Rabi, je veux comprendre.
Il suffit juste de composer le 325 sur ton téléphone pour suivre les émissions de Kalangou. Et ce n'est pas tout, tu peux également écouter des messages sur la santé et la météo.
Quoi? Et partout au Niger?
Et oui, en plus l'appel sur le 325 est gratuit. Il faut juste disposer d'une puce RTL.
Oh, merci infiniment.
Le 3, 2, 5 pour suivre les programmes de Studio Kalangou au rythme du Niger.